This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il n'y aura pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire, ou quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée et proposée par Alain Vaquier et Gérard Viols. Réalisation technique, Bruno Bertrand. 1970. Que se passait-il en 1970 ? De grands et graves événements se produisaient, mais faut-il rappeler qu'en cette année-là, eh bien, le prix Nobel de littérature était décerné tout simplement à un grand, grand, très très grand écrivain.
Bonsoir à tous.
Alors bien sûr, quand on parle littérature dans les années 70, comment ne pas évoquer l'émission Apostrophe, émission au cours de laquelle seront reçus tous les plus grands écrivains par M. Bernard Pivot. Et cette année-là, eh bien, lui, il vient, si je puis dire, du RSS. Il a pour nom tout simplement Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyne et il va obtenir le prix Nobel de littérature. Vous imaginez bien que ceci est un événement, car pour une fois, un écrivain soviétique va donc recevoir le prix Nobel de littérature. Et il faudra rappeler quand même que cette émission aura lieu bien plus tard, parce que, eh bien, en 1970, M. Solzhenitsyne ne recevra pas le prix directement. Il attendra 4 ans, parce qu'il n'a pas pu se rendre à Stockholm, car évidemment, il était donc exilé volontaire, si je puis dire, hors URSS, et craignant de perdre sa nationalité soviétique, eh bien, il ne se rendra pas à Stockholm. Mais ça, c'était M. Solzhenitsyne. Alors, il faut dire que eh bien, ce grand écrivain aura passé des années et des années au goulag. Il va donc, lui, porter témoignage direct de ce qu'était vraiment le goulag. Mais pendant ce temps-là, eh bien, aux États-Unis, Mr. Ornette Coleman, lui, définissez une autre vision du jazz avec ce thème Forgotten Songs.
Thank you.
Ornette Coleman, Forgotten Songs. Alors effectivement, dans les années 70, le jazz, on a l'impression qu'il part un peu dans tous les ébats qu'on peut imaginer. Eh bien, pas du tout, parce que même si ceci paraît très débridé, il faut savoir que tout était organisé et que rien n'était encore dans l'impro total. Bien sûr, viendra ensuite le free jazz avec la partie qui voudra que là, ce soit la totale débandade, mais là, pas du tout. Les grands, les très grands, tels que Ornette Coleman ou Charles Lloyd, vont apporter cette touche de modernité qui fera en sorte que le jazz prendra un nouvel essor à ce moment-là, mais demeurera une musique qui, sans être totalement écrite, laissera la part belle à l'improvisation dans une espèce de capharnaüm où on pourrait croire que chacun fait un peu ce qu'il veut, mais pas du tout. Les lignes mélodiques sont déjà définies et chacun des musiciens, lui, devra donc se tenir à ces lignes mélodiques, même si il paraîtrait que chacun va pouvoir apporter, là aussi, sa diversité et tout son talent. Alors, pour revenir à Mr. Solianistine, qui était-il ? Eh bien, Alexandre Isaïevitch Solianistine était né donc le 11 décembre 1918 à Kiskoldovsk, dans le Caucase, ce qui déjà était une particularité, parce que le Caucase semblait déjà une république un peu à part dans le système soviétique, et sans aller jusqu'à dire que d'ores et déjà, il avait ce tempérament qui allait faire de lui un des principaux écrivains dissidents de l'Union soviétique, eh bien, on peut dire que les Caucasiens avaient déjà cette particularité de ne pas être totalement admis par le système de l'époque, système soviétique. Alors, épris très jeune de littérature, il choisira pourtant de poursuivre des études universitaires de mathématiques et de physique, ce qui ne l'empêchera pas de suivre, bien évidemment, par correspondance, des cours de philosophie et de littérature. Il va participer à la guerre lors de l'invasion allemande en 1941. Il sera d'ailleurs décoré de l'étoile rouge, donc dès 1942. En 1945, il va débuter ses prises de position critiques à l'encontre du système de Lénine, ce qui lui vaudra tout simplement une condamnation de 8 ans de prison. Il va poursuivre, il va commencer ses œuvres littéraires. Et après avoir donc purgé cette peine dans les camps de travail du Goulag, eh bien il va avoir l'opportunité de témoigner de ce qu'il se passait. Et à partir de là, va commencer pour Solianistine cette espèce de purgatoire permanent qui fera de lui l'éternel dissident du système soviétique. Et il est vrai que s'il a fait beaucoup de choses, on revient dans sa carrière littéraire, eh bien il va écrire notamment, évidemment, Une journée d'Ivan Denisovitch, mais aussi ce thème-là tout à fait énigmatique pour la population française et même mondiale, avec le thème qui aura pour titre « Le chêne et le veau ». Et il s'en expliquera dans l'émission de Pivot, donc « Le chêne et le veau » raconté par Solianistine.
Есть такая пословица русская. Бодался теленок с дубом.
Un proverbe russe dit un veau cherchait à encorner un chêne.
Как многие пословицы, она иронична по своему замыслу.
Comme de nombreux proverbes, celui-là aussi est ironique dans son intention.
Бедный, слабый, глупый теленок.
Un pauvre veau misérable.
Тебе ли с твоим слабым лбом и с малыми рожками бодаться с могучим дубом.
Comment peux-tu encorner un chêne avec tes petites cornes?
Ничего из этого не выйдет.
Il n'en sortira rien.
Я взял эту пословицу названием своей книги.
J'ai pris ce proverbe comme titre de mon livre.
Которое, к сожалению, во французском переводе пришлось изменить.
Qu'il a fallu malheureusement modifier dans la traduction française.
Для того, чтобы выразить то истинное соотношение сил, которое было в моем невольном, навязанном мне поединке с властью за мою литературную работу.
Pour bien exprimer le rapport de force dans le combat que j'ai dû mener par contrainte, dans le combat littéraire que j'ai dû mener par contrainte, que j'ai contraint de mener avec le gouvernement.
Et oui, c'était donc ce qu'exprimait Solianistine dans l'émission de Bernard Pivot, à savoir effectivement ce combat perpétuel et éternel qu'il va mener contre le système, et il sera certainement le premier écrivain à dénoncer ainsi ce qu'était le goulag, non pas au travers d'une littérature qu'on pourrait supposer imaginative, non, lui, il l'a vécu véritablement, ce qui fait de lui un témoin exceptionnel, et il faut dire que, eh bien, il fera des allers-retours entre l'exil et, effectivement, l'Union soviétique, parce qu'il va être parfois habilité, réhabilité, exilé volontaire, exilé, on va dire, perpétuel. C'est ce qui va définir un peu la vie de Soljenitsyne. Alors, dès 1945, il va donc débuter cette carrière d'écrivain, mais il va en même temps donc débuter cette contestation permanente de ce que pouvait être justement la volonté des écrivains soviétiques. Il n'hésitera pas, lui, dès 1969, à faire paraître, tout simplement, dans un essai, le droit des écrivains, considérant que, eh bien, quelle que soit la nature des propos tenus, il était hors de question que la censure soviétique fasse pression et interdise une quelconque publication. C'était ça, Soljenitsyne, à cette époque-là. Alors, il va être déclaré, tout simplement, comme ennemi du peuple, pas moins que cela, en 1948. Il va demeurer enfermé donc, dans les camps de travail et jusqu'en 1953 quand même, à savoir une très longue période. Et cette voix qui va apporter cette dissidence va résonner donc, de l'Oural jusqu'à la Baltique, faisant valoir ainsi ce que pouvait être un témoignage de celui qui avait vécu dans le goulag et pas du tout quelqu'un qui aurait eu tout simplement une vision même la plus dramatique, des camps de travail du goulag. Il va être libéré quelques semaines avant la mort de Staline, et malgré tout, il va être condamné à cette époque-là à un exil perpétuel. C'était ainsi qu'il va être défini comme exilé perpétuel au Kazakhstan. Vous imaginez bien qu'un tel monsieur ne pouvait être tout simplement qu'un exilé perpétuel. Il va donc s'employer, lui, à retrouver la valeur et la force de ses écrits, et il va le faire grâce, on peut dire, à la complicité tout simplement de Khrouchtchev, pas moins que cela. Il va donc être réhabilité en 1956, il va s'installer à Razian, à 200 km de Moscou, et à cette époque-là, pour vivre, il va exercer le métier de professeur de sciences physiques.
So much. We like to do a song written by one of our young generation and a young gentleman named Nilsson, and the song is called Open Your Window. Letting the rest of the world go fly. deep sigh. And holding your hand is such a natural high. Click, 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 click. Shout, boom, 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 beep, beep, ee, ooh, ee.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Cette année-là, donc, 1974, cinq années après le choc des événements de mai 68. La société civile aspire à de très nombreuses formes d'émancipation partielle. Cette année-là, à cause du décès du président de la République en exercice, ce sera une année cruciale pour la France. Georges Pompidou a succédé au général de Gaulle après son départ en 1969, alors qu'il est malade depuis 1968. Comme quoi, le François Mitterrand ne sera pas le premier malade que nous aurons élu. Les Français le voient décliner à la télévision et il décédera d'une septicémie le 2 avril 1974 alors qu'il était atteint d'une maladie rare, la maladie de Waldenström. Le président du Sénat assure donc l'intérim, comme prévu par la Constitution, et organise de nouvelles élections. C'est une situation totalement inédite. Après une lutte acharnée au sein des partis de droite, c'est finalement Valéry Giscard d'Estaing qui sera opposé à François Mitterrand et qui va l'emporter. C'est donc une droite libérale, au plan des mœurs, qui va gouverner et surfer sur des revendications progressistes, paradoxalement. La liberté des mœurs et liberté économique vont se conjuguer. Deux femmes clés vont entrer au gouvernement. Simone Veil sera ministre de la Santé et Françoise Giroud sera secrétaire d'État à la condition féminine. On ne parle pas encore, hélas, de droits, mais de conditions. Sous la poussée du MLAC, organisation féministe, et de toutes les autres organisations féministes, le président Valéry Giscard d'Estaing va demander à Simone Veil de préparer une loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Son coup de génie sera de faire présenter cette loi comme un problème de santé publique par Simone Veil, au lieu de le faire présenter par Françoise Giroud, ministre secrétaire d'État donc à la condition féminine. Alors plusieurs événements se sont produits avant qu'on arrive à la présentation de cette loi. Il y a des précédents. Le premier d'entre eux, c'est la loi Neuwirth sur la libéralisation de la contraception, qui ne devient plus une chose illégale, qui aura été votée en 67, mais dont les décrets d'application n'interviendront qu'en 72. Il aura fallu 5 ans pour que la droite admette, bon gré mal gré, que la contraception est une chose légale. Il y aura ensuite le manifeste des 343, le 5 avril 1971. 343 personnes, 343 femmes, signent un manifeste intitulé « Je me suis fait avorter », rédigé par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Suivra en 73 le manifeste des 331. Ce sont 331 médecins qui se disent favorables à l'IVG et déclarent l'avoir pratiqué pour des raisons humanitaires. C'est probablement le procès de Bobigny en octobre-novembre 72 qui eut un retentissement très important et qui a modifié un petit peu la donne. 5 femmes y étaient jugées pour avortement, dont une jeune fille qui donc avait eu recours à ce moyen après un viol. Maître Gisèle Halimi assurera la défense de la jeune femme et celle-ci sera relaxée. L'association Choisir, présidée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, va amplifier l'impact de ce procès vis-à-vis de la loi pénale qui date quand même de 1920. Il reste notamment Il restera de tous ces événements un livre réédité en 2006 par Gallimard et un film réalisé en avril 2006 auquel on peut encore se référer. Je vous propose d'écouter la présentation qu'a fait Simone Veil en préambule, dans le préambule de la loi, qu'elle présentait à l'Assemblée nationale avant de se faire traiter d'avorteuse et de criminelle.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
Alors cette année-là, 1974, une grande dame du jazz fête ses 57 ans. Et une télévision européenne, la télévision néerlandaise, va lui consacrer un concert dans lequel elle va pouvoir exprimer l'intégralité de son talent. On l'appelle à ce moment-là la First Lady of Jazz, et donc va exprimer toutes ses capacités, sa finesse d'interprétation. Je vous rappelle qu'elle a obtenu durant sa carrière 13 Grammy Awards, ce qui n'est pas rien. Alors, c'est une chanteuse assez exceptionnelle, puisque la tessiture de sa voix couvrait 3 octaves, ce qui lui donnait des possibilités d'expression assez étonnantes. C'est en plus une improvisatrice assez étonnante qui a une aisance qui se manifeste notamment lorsqu'elle chante en scat, c'est-à-dire avec des onomatopées. Alors l'extrait que vous allez entendre, c'est donc un extrait de ce concert de son anniversaire, enregistré donc par la télévision néerlandaise. Et ce sont deux morceaux, un morceau très rythmé sur lequel elle va improviser en scat précisément, « I don't mean a thing ». Et puis elle enchaîne avec « The Man I Love » dont elle donne deux interprétations tout à fait différentes.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah-ooh-wah. Make no difference if it's sweet or hot. I gotta have melody, I gotta have music, anything to make it sweet. Come on with that melody, come on with that music, just don't make it complete. Yeah.
Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. That's soon to be released on one of our albums. Not like that. Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes by, to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. And in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good Tuesday.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne sera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.